France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 6 septembre. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Agnès, des centaines d'hectares ravagés par les flammes dans le sud, mais aussi l'ouest et le centre de la France, en cause la sécheresse après un été caniculaire. On voit ça après les autres titres.
Les derniers vols de la compagnie Aigle Azur, les avions resteront cloués sur le tarmac dès ce soir. Des élections anticipées, le combat du jour de Boris Johnson. Préserver la fertilité des enfants atteints de cancer, des solutions existent. Et puis si vous aimez tchatcher jusqu'au bout de la nuit, cap sur Angers où se déroule le championnat du monde de conversation.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, c'est une star du rap et de la variété française, Gims, qui sera au micro d'Ali Badou. À 8h20, le grand entretien de la matinale. On est très heureux de recevoir le sociologue et philosophe Edgar Morin. Il publie ses mémoires, Les souvenirs viennent à ma rencontre. C'est chez Fayard. Vous aurez la parole évidemment vers 8h30. Le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est le dernier incendie recensé dans l'Hexagone, aux portes de Marseille. Hier en fin de journée, les flammes ont ravagé une quinzaine d'hectares près de Septèmes-les-Vallons, au bord de l'autoroute A7 et tout près du quartier de la Gavotte où une centaine d'habitations ont un temps été menacées. L'épaisse fumée a provoqué notamment des embouteillages monstres. Ce matin, l'autoroute A7 a pu rouvrir. Cet exemple parmi d'autres de la menace qui pèse aujourd'hui en raison de la sécheresse. 25 départs de feu enregistrés hier pour le seul département de l'Hérault. Et un peu partout, des paysages de désolation, comme dans l'Indre, où 150 hectares de forêt sont partis en fumée dans la Brenne, où s'est rendue Élodie Rabel. Reportage.
Cette riveraine habite en bordure de la forêt. Même si le feu est maîtrisé, les images de l'incendie sont encore très claires dans son esprit.
Franchement, le ciel était en feu. En feu, en feu. C'est très impressionnant. On a eu la chance que c'est pas venu chez nous. C'est vraiment... Oh, nous, ça fait 10 ans qu'on est là, c'est la première fois qu'on voit ça. Et puis on voyait, nous, ici, des braises qui nous passaient au-dessus de la tête.
Des braises et même des flammes pour ce fermier qui ne reconnaît plus le paysage qui l'entoure.
Bah, ça brûlait partout, hein. C'était un peu... Le désastre, quoi. Très impressionnant. Là, il y a beaucoup de sapins chez nous, donc des grandes flammes.
Hein. À la place de la campagne verte, des arbres calcinés, le sol recouvert de cendres et de suie, et les camions des pompiers qui partent en reconnaissance. Le lieutenant Patrice Fautous.
Pour vérifier tous les points à traiter, tous les points névralgiques qui pourraient entraîner des reprises de feu, éventuellement une propagation vers la forêt de Lancôme, donc chose qu'on veut absolument éviter.
Leur objectif pour les jours à venir, éteindre fumées et braises qui pourraient rester.
Ce qu'il faut, c'est absolument qu'il n'y ait pas de nouveau départ. Et donc pour éviter tous ces départs, il faut noyer les souches, les fossés, etc.
Le risque de reprise est cependant moyen. Seul le vent représente un réel danger.
Reportage d'Élodie Rabel de France Bleu Berry. Ces incendies en septembre, ce n'est pas normal, a réagi le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui explique qu'avec le réchauffement climatique, certains départements jusqu'ici épargnés vont devoir s'adapter. Quant au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il salue dans un tweet l'engagement de plus de 1200 pompiers et 17 aéronefs.
Il est 7h04, Aigle Azur suspend ses vols.
Coup dur hier pour les passagers de la compagnie aérienne qui a donc annoncé l'annulation de tous ses vols à partir de ce soir, sans dédommagement dans l'immédiat pour les clients, car l'entreprise en redressement judiciaire depuis le début de la semaine n'en a tout simplement pas les moyens, d'où l'inquiétude des passagers coincés en Algérie notamment. Rémi Brancato a rencontré hier soir à Orly Afida, venue chercher sa sœur de retour d'Alger et qui se fait du souci pour ses parents.
Je viens d'apprendre que Aigle Azur, à partir de samedi, il n'y aura plus de vols, sachant que mes parents y rentrent le lundi 9 et que les billets ont été... Enfin, ils les ont déjà pris, les billets, et depuis très longtemps. Je viens d'apprendre aussi qu'ils ne vont pas être remboursés, qu'il n'y aura aucune aide autrement. Et là, ça, franchement, c'est choquant. C'est hyper choquant parce qu'il va falloir reprendre d'autres billets à nos frais. C'est pas sympa, quoi. Ils vont mettre beaucoup de personnes dans la merde, quoi, c'est ça. Et en plus, on n'a même pas été informés. D'habitude, on a les infos et tout qui tombent là. Déjà, un billet, c'est 600 euros par personne. L'été, vous imaginez 1200 euros pour aller en Algérie. C'est pas Miami, mais bon, ça reste l'Algérie. Et là, va falloir repayer encore un billet, là. C'est pas logique, en fait, pour moi. Sachant que c'est des retraités, mes parents. Et c'est ma petite sœur et moi qui avons pris les billets. Donc forcément, là, c'est nous qui allons repayer, quoi.
Un témoignage recueilli par Rémi Brancato. La bataille perdue d'Alain Veil. Le PDG d'Altice renonce à faire payer Free et Orange pour la diffusion de BFM, de RMC Découverte et RMC Story. Lui n'a pas renoncé. En retrait depuis 2 ans, l'ancien Premier ministre de François Hollande a fait un retour remarqué hier aux journées parlementaires du Parti Socialiste à Avignon. Bernard Cazeneuve qui se déclare disponible pour aider les socialistes. Marc Potvin.
Bernard Cazeneuve, derrière un pupitre, c'est une image dont on avait perdu l'habitude. Mais les réflexes reviennent vite, le ton est solennel quand il prend la parole.
Jamais l'état du monde, de l'Europe et la situation de notre pays n'ont présenté autant de défis et autant de risques.
L'ancien Premier ministre revient longuement sur la transition écologique. Pour lui, elle doit aller de pair avec une croissance sobre et sûre. Le discours d'un homme qui souhaite apporter ses idées au PS veut croire le patron du parti, Olivier Faure.
À ce stade, tous doivent être des contributeurs et poser de manière prématurée la question de la présidentielle, c'est pour moi une faute.
Pourtant, c'est bien un sujet dans les rangs socialistes et l'ex-ministre de l'Intérieur ne l'a pas évité, souligne le député David Habib.
Il a répondu à cette question en disant à la fin qu'il serait disponible toujours pour aider les socialistes.
David Habib a trouvé Bernard Cazeneuve excellent. D'autres, comme le sénateur Martial Bourquin, sont encore plus enthousiastes.
Je pense que le Parti Socialiste aurait tort de se passer d'un homme d'État comme Bernard Cazeneuve.
Ça reste à voir pour certains socialistes, comme cet élu qui souffle avant de refuser de commenter le discours de l'ex-premier ministre, et cet autre qui répond poliment qu'il a mieux à faire.
Toujours plus d'apprentis en France. Ils étaient près de 460 000 fin juin à avoir choisi l'alternance entre cours théoriques et stages en entreprise. C'est 8,4% de plus que l'an dernier. On a bougé le regard sur l'apprentissage. C'est félicité Muriel Pénicaud.
7h07 à Londres, Boris Johnson joue son va-tout.
Et son va-tout, ce sont des élections anticipées mi-octobre. Le Parlement devrait adopter définitivement dans la journée un texte obligeant le Premier ministre à négocier avec Bruxelles un report du Brexit. Boris Johnson pourrait en échange négocier l'organisation de législatives dans un peu plus d'un mois. Mais l'épisode laissera des traces. Les Lords n'ont pas apprécié les manœuvres de ces derniers jours. Lord Peter Ricketts.
Face au Parlement, il perd les points importants et sur le style et sur la substance. Ça pose des questions sur sa capacité de rassembler le pays après une élection. Ce pays a besoin de rassemblement, de se calmer, de retrouver notre sang-froid, notre pragmatisme qui est notre image de marque un peu comme britannique. Mais je ne suis pas certain que Boris Johnson, vu sa première semaine ici à Westminster, est nécessairement la personne qui puisse faire ça pour nous. Surtout après un Brexit qui va être dur et difficile, quelle que soit la manière. J'entendais Boris Johnson avec sa première discours de campagne à Wakefield dire « Tout le monde veut qu'on finisse avec cette question de Brexit. » Mais le départ de l'Union européenne sera le début du reste. Ça va continuer. Les négociations avec l'Union européenne, ça va continuer pour des années à venir. Et les gens ne sont pas prêts pour ça ici. Personne ne les a dit que le 31 octobre ou toute autre date n'est pas la fin, c'est le début.
Réaction recueillie par Marie-Pierre Véraud à Londres. Septembre en or, c'est le mois consacré à la mobilisation contre le cancer de l'enfant. 2500 nouveaux cas dépistés chaque année. La bonne nouvelle, c'est que les traitements actuels permettent d'en guérir plus de 80%, mais les effets secondaires peuvent être redoutables et affecter notamment leur capacité à avoir eux-mêmes un jour des enfants. Mais autre bonne nouvelle, des solutions existent, Véronique Julia, même pour les enfants prépubères.
Dans certains cas, parce que le traitement anti-cancer implique une dose massive de certaines chimiothérapies, thérapie, par exemple, on sait avec certitude que la fertilité de l'enfant va être entamée. Dans ces cas-là, une préservation est systématiquement proposée. Si le patient est déjà pubère, on prélèvera et congèlera son sperme ou ses ovocytes. S'il n'est pas pubère, ce sera un peu plus compliqué, mais néanmoins possible, explique le docteur Lise Duranteau, endocrinologue gynécologue aux hôpitaux de Paris.
Chez l'enfant prépubère, fille ou garçon, il va falloir lui retirer. Chez la fille, c'est plus souvent un ovaire entier. Et chez le garçon, ça va être un morceau de tissu testiculaire. Ce tissu testiculaire, il va être préparé pour être congelé.
Et on le réimplantera quand l'enfant, devenu grand, aura envie de procréer.
Tout à fait. L'hypothèse, c'est que ce tissu immature, lorsqu'il aura été réimplanté, va reprendre le cours de son évolution et donc pouvoir fournir devenir des ovocytes matures.
Ces procédures sont encore expérimentales. Il n'y a pas encore eu de réimplantation et de grossesse. Pour les patients qui ne présentaient pas autant de risques et dont la préservation n'aurait pas été réalisée, un suivi devra être fait pendant et même des années après la puberté, car les traitements peuvent altérer la réserve ovarienne ou la qualité du sperme. La plupart du temps, on ne sait pas dire avec précision les risques encourus par les traitements, mais depuis 10 ans, le risque et la possibilité d'une préservation sont systématiquement exposés aux patients et à ses parents.
Une affiche inédite pour la finale dame de l'US Open demain, Serena Williams, qui va tenter de décrocher un 24e titre en Grand Chelem, affrontera la jeune prodige canadienne Bianca Andreescu, 19 ans seulement. Les Bleus au Stade de France demain soir pour un match éliminatoire de l'Euro 2020 face à l'Albanie. Mardi, ce sera face à l'équipe d'Andorre. 2 matchs, 2 rencontres au Stade de France. Alors pourquoi les Bleus jouent-ils si peu ailleurs? Élément de réponse avec Cédric Guyot.
L'ambiance du Stade de France, le jardin de l'équipe de France de football. Cette année, seule la Beaujoire à Nantes a vu évoluer les champions du monde en dehors du Stade de France. L'an dernier, les Bleus y avaient joué 5 de leurs 8 matchs à domicile. Un passage obligé puisque la Fédération française de foot a signé en 2010 avec le consortium du Stade de France une convention qui l'oblige à organiser au moins 4 matchs par an à Saint-Denis, dont la finale de la Coupe de France. Pour cela, la Fédération française de football s'acquitte d'un loyer annuel fixe, plus de 7 millions d'euros, complété par un intéressement à la recette de billetterie sous la forme d'un pourcentage. De quoi y réfléchir donc à 2 fois avant d'organiser une rencontre internationale ailleurs qu'au Stade de France, d'autant que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, y voit aussi un intérêt sportif.
Il y a quand même pour l'adversaire, et ça je l'ai toujours eu à l'esprit, le fait d'être au Stade de France. Ben, l'adversaire, c'est pas le même contexte. Nous, on est chez nous complètement. On maîtrise sur le terrain et en dehors aussi. Donc, ça va plutôt dans notre sens.
Les Bleus joueront mardi soir contre Andorre, le 100e match de leur histoire au Stade de France.
On apprend à l'instant la mort de Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe. Il vient de mourir, il était président jusqu'en 2017. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions.
Il est 7h12, Agnès. Enfin, si vous aimez parler, argumenter, convaincre, amuser votre auditoire...
Eh bien, vous pouvez aller au championnat du monde de conversation. Il est fait pour vous. Ça, il a lieu à Angers. Le principe est simple. 5 participants sur scène qui discutent sur un thème choisi ou imposé. Et le locuteur le plus brillant l'emporte. Et le gagnant aujourd'hui est Sébastien Sabiron.
Finale 2018, thème imposé. Les conversateurs doivent débattre d'un livre imaginaire.
Est-ce que quelqu'un a lu le dernier roman de Madison Bouvardin ? Je mange, donc je maigris.
Calixte de Nigremont, maître de cérémonie et inventeur du concept.
Ça peut être des sujets tirés au hasard, c'est-à-dire la Chine, les plaques d'égout. Puis ça peut être des choses un peu plus à la mode, c'est-à-dire les trottinettes. Les seuls sujets qui sont interdits sont les sujets à caractère politique, religieux ou heurtant la morale généralement admise.
Sur scène, la conversation peut être drôle, intéressante, émouvante, l'imagination au pouvoir et aucune règle, si ce n'est d'éviter à tout prix l'ennui. Lucas, champion du monde en titre.
Il faut savoir écouter, rebondir, il faut avoir beaucoup d'autodérision. Tout le monde devrait essayer de faire ça dans sa vie au moins une fois pour la confiance en soi et pour son propre plaisir, c'est sympathique.
Pour Calixte de Nigremont, l'art très français de la conversation repose avant tout sur l'écoute et l'échange, des valeurs un peu oubliées dans ce monde pourtant ultra connecté.
Chacun a tendance à vouloir asséner son point de vue et la conversation, c'est absolument l'inverse de ça. Il ne s'agit pas d'arriver avec des certitudes et de les asséner au monde entier, il s'agit au contraire de prendre en compte ce qui est dit par l'autre pour en faire son pain quotidien.
Et le monsieur loyal de la conversation rêve de faire de ce championnat unique au monde une compétition francophone avec par exemple des équipes africaine et québécoise.
Championnat du monde de conversation, c'est donc à Angers. Qualification demain, finale dimanche.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info sur les zones d'ombre de l'assassinat des journalistes Guylaine Dupont et Claude Verlon, tués au Mali en 2013. Premier point route, Thomas Coignac, bonjour.
Bonjour.
L'autoroute A89 vient de rouvrir.
Oui, il y a 20 minutes, elle était fermée depuis 22h30 hier, au niveau de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, dans le sens Lyon, Clermont, à cause de l'incendie d'un camion. La route est donc de nouveau accessible, même si vous ne roulez que sur une voie. Attention à ce coup de frein sur la rocade intérieure de Toulouse. Une voiture est en panne juste avant la sortie de la Faourette, alors que c'était déjà compliqué pour arriver sur la rocade depuis le sud et Muret sur la 64.